CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour tout le monde, merci d'écouter CFM Radio, c'est l'heure de votre magazine en Tarn-et-Garonne. On est jeudi le 19 mai, on consacre donc ce magazine à la politique avec Kader Youb et c'est Politiquement Votre. Bonjour Kader.
Bonjour Aurélien, bonjour à tous.
Notre invité aujourd'hui, Sylvia Pinel.
Oui, Sylvia Pinel, donc députée Parti Radical de Gauche, députée de Tarn-et-Garonne, ancienne ministre, ancienne conseillère régionale. Bonjour Sylvia Pinel.
Bonjour.
Merci d'être venue sur CFM Radio. Merci d'avoir accepté spontanément notre invitation. Vous êtes donc candidate à votre réélection. Vous aurez face à vous une candidate de la lutte ouvrière, Françoise Ratzimba, une candidate de la France Insoumise, Nathalie Manchado, une candidate du parti animaliste Ophélie Balestan, un candidat du mouvement Ensemble, l'ancien Républicain Marche, Christian Astruc, ancien président du conseil départemental, et enfin une candidate Rassemblement National, Marine Oran. Aux dernières nouvelles, il semblerait que le candidat des Républicains soit absent. En tout cas, l'investiture de Michael Certain a été annulée. Avec vous, Sylvia Pinel, on va faire un tour d'horizon sur l'actualité politique, notamment la présidentielle et la nomination de la nouvelle Première ministre Elisabeth Borne. On parlera aussi de vos projets pour le Tarn-et-Garonne et de votre bilan en tant que député de Tarn-et-Garonne. Un mot sur la présidentielle, sur le résultat. Est-ce que vous avez des regrets au regard du résultat de l'élection présidentielle ?
Il y a incontestablement eu en Tarn-et-Garonne et dans la deuxième circonscription un cri de colère, beaucoup d'inquiétude, un désarroi profond qui s'est exprimé à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, puisque Marine Le Pen y est arrivée en tête. Au niveau national, beaucoup de partis républicains se sont mobilisés pour faire barrage à l'extrême droite. Donc au plan national, on a réussi à éviter le pire. En revanche, dans cette deuxième circonscription, il faut, et en Tarn-et-Garonne en général, il faut effectivement être conscient de la gravité du moment et prendre les bonnes décisions pour le futur et entendre le désespoir de beaucoup de notre population.
Vous avez parlé du vote du Rassemblement National et notamment ses scores très élevés.
Plus de 55% dans la deuxième circonscription.
Oui, mais de manière générale, sur le Tarn-et-Garonne, ça a été des scores assez importants et d'ailleurs partout en France. Cette carte de France des vôtres, elle montre bien qu'il y a deux France, celle des grandes métropoles et d'Ouest, c'est des personnes qui vivent bien, en tout cas qui ont des catégories socio-professionnelles assez élevées, une France qui va bien, qui vote Macron, et de l'autre, il y a celle de la ruralité que vous connaissez, vous êtes de la ruralité, qui vote Le Pen et se plaint d'un déclassement. Cela fait des décennies, des années et des années, scrutin après scrutin, que l'on voit cette France se fragmenter. Comment renouer justement ces deux parties ? Comment renouer ces deux Frances, selon vous, Sylvia Pinel ?
Moi, je crois qu'il y a plusieurs fractures. Il y a plusieurs fractures, vous l'avez évoqué, fractures territoriales, ville, campagne, pour schématiser. Mais il y a aussi, à l'intérieur de ces catégories urbaines ou rurales, aussi des fractures sociales, des fractures environnementales, des fractures liées au cadre de vie, à l'attractivité, au pouvoir d'achat, à l'économie. Et c'est en agissant sur l'ensemble de ces fractures que, je crois, nous parviendrons à redonner confiance à notre population et à faire en sorte que ce cri de colère ne se manifeste plus de cette manière-là. Mais ça demande beaucoup de volontarisme, ça demande d'être à la tâche, de se retrousser les manches et, encore une fois, de prendre les bonnes décisions et d'écouter ceux qui ont l'expérience. Vous savez, dans ce quinquennat, les parlementaires de terrain, les parlementaires d'expérience, ceux qui ont eu à exercer des responsabilités nationales ou régionales ou locales, n'ont pas été très entendus, très écoutés. Et on est arrivé justement à des fractures, à des divisions, à finalement une colère de plus en plus visible qui s'exprime. Je pense à l'augmentation...
Vous parlez d'Emmanuel Macron, de son gouvernement, qui n'a pas écouté assez les élus de proximité.
Exactement, toutes ces cinq dernières années, le Parlement n'a pas été suffisamment entendu, pas plus que les collectivités territoriales, pas plus que les élus locaux. Il a fallu attendre la crise des Gilets jaunes pour que l'on se rende compte qu'il y avait des maires dans notre pays, et puis il a fallu ensuite attendre la crise sanitaire pour que l'on s'appuie enfin sur les régions, les départements, bien sûr les communes, pour faire tenir le pays. Et ça, c'est une méthode qu'il faut absolument changer si on veut réconcilier, redonner confiance à nos concitoyens en la politique et dans ce que nous pouvons faire concrètement.
Alors, la politique, justement, comment vous, ancien allié, ministre de François Hollande, ancien allié des socialistes, vous avez réagi à l'annonce de l'accord signé entre Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, la France Insoumise et le Parti Communiste. Comment vous l'avez perçu, cet accord ?
D'abord, le Parti radical de gauche a été un des premiers à dire qu'il ne participerait pas à cet accord.
Pourquoi ?
Parce que pendant la présidentielle, souvenez-vous, avant l'élection présidentielle, le PRG a jusqu'au bout essayé de rassembler la gauche en essayant de faire en sorte que l'on n'ait qu'un seul candidat. On a très vite constaté des désaccords de fond, insurmontables pour certains d'entre eux. Et finalement, tout ça la campagne présidentielle s'est déroulée. Et puis là, on revient après l'élection présidentielle en disant, finalement, on va pouvoir se mettre d'accord. Moi, je ne crois pas que ce qu'on ne peut pas faire en quelques mois, on est capable de le faire en 10 jours. Je constate d'ailleurs qu'à l'intérieur de ces familles politiques, ça n'a pas suscité forcément l'enthousiasme général. Il y a pas mal de divisions dans certaines familles politiques au sujet de cet accord. Et je le comprends. Je le comprends parce que il y a des points d'achoppement très forts sur les fondamentaux, sur nos visions de la société, sur nos visions de la construction européenne. Et on ne peut pas se rapprocher comme ça aussi vite sur des points d'achoppement qui sont extrêmement importants dans le contexte international de guerre en Ukraine que nous connaissons, dans un contexte où la pandémie est toujours plus ou moins là, et dans un contexte où nous avons besoin justement de réaffirmer un certain nombre de principes républicains fondamentaux face à l'extrême droite.
Est-ce que vous pensez, vous, que, comme par exemple Jean Glavany, mais d'autres personnalités, que le PS est mort ? Désormais.
Écoutez, moi, je suis membre du Parti radical de gauche et je n'aime pas...
Mais c'est quand même votre grand frère. Le Parti socialiste, c'est votre grand frère. C'est votre partenaire historique.
Non, mais moi, je ne me réjouis pas de voir l'état de la gauche aujourd'hui. Et je trouve que c'est extrêmement préoccupant de voir l'état dans lequel nous sommes collectivement.
Allez mieux quand le Parti socialiste est bon.
Mais je pense que ce qui est important, c'est pas tellement de savoir si nous allons bien ou pas bien. Ce qui est important, c'est de savoir de quelle manière nous parlons aux Français et comment nous pouvons agir demain pour être efficaces et être utiles à la France. Et moi, je constate quand même que dans les collectivités territoriales, certes, à l'élection présidentielle, les résultats de la gauche de gouvernement n'ont pas été à la hauteur des espoirs que beaucoup pouvaient avoir. Mais je constate que dans nos exécutifs locaux, que ce soit au département ou à la région, les politiques que nous mettons en place sont efficaces, sont intéressantes pour nos concitoyens et elles ont prouvé leur pertinence. Donc c'est aussi par l'exemple que nous réussirons à recréer une force de gauche crédible et qui fera revenir nos concitoyens vers nous.
Est-ce que vous parliez du département, est-ce que ce qu'a réalisé Michel Veil à la tête du c'est qui commence à réaliser au département, c'est-à-dire mettre en place une politique pour les habitants au-delà des clivages politiques, c'est pas ça la solution finalement.
Moi, je crois qu'il faut être clair sur les fondamentaux. Moi, je me réjouis des politiques mises en œuvre par Michel Veil et sa majorité. Je me réjouis aussi des politiques publiques mises en œuvre à la région Occitanie par Carole Delga et sa majorité plurielle aussi, hein, puisque vous le savez.
Oui.
Mais oui. Radicaux, communistes, des écologistes.
Des écologistes, mais qui ne sont pas... Ouais, bon, bref.
Si, des écologistes. Mais... Hein, ouais. Donc, moi, ce que je vois, c'est...
Il n'y a pas eu d'accord avec les Europe Écologie.
Il y a eu d'autres écologistes. écologistes qui y étaient. Et moi, je constate que le bilan de l'exécutif régional, que ce soit aussi celui du département, est justement en phase avec ce qu'on nous dit sur le terrain. Et c'est justement par ces politiques publiques concrètes, réalistes et responsables, je n'oublie pas le mot responsable, que l'on arrivera justement à réconcilier les Français avec la gauche.
Alors, lorsque vous allez rencontrer les habitants du Tarn-et-Garonne sur votre circonscription, ils vous disent quoi, les habitants, justement ? Qu'ils en ont assez des partis ? Qu'ils veulent plus de proximité ?
Les habitants nous parlent de leurs problèmes, de leur vie quotidienne. Et ils ne nous parlent pas des accords d'appareil ou de tambouille électorale.
Voilà.
Ce qu'ils regardent, c'est comment on agit pour eux, quelles sont justement nos capacités à agir pour eux, qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie qui a permis justement de les aider ou de les accompagner. Voilà ce qu'ils regardent. Ils regardent la politique par la preuve. Ils regardent la politique par l'exemple. Ils ne regardent pas forcément tel ou tel accord d'appareil qui finalement est très éloigné de leurs préoccupations. Qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui ? Pouvoir d'achat, santé, accès aux soins, développement économique, attractivité du territoire, problème de déplacement. Voilà ce qu'ils nous disent.
Mais quand même, vous faites partie du Parti radical de gauche, les gens ont peut-être assez des partis politiques, mais ceux qui traversent les partis politiques, les mouvements, il y a la philosophie, c'est celle qui est importante finalement pour la vie d'une cité. L'accord électoral de la France Insoumise avec le Parti communiste et le Parti socialiste, il permet de déroger aux règles instituées par l'Union européenne. Est-ce que ça, ce n'est pas dangereux ? Est-ce que finalement, il n'a pas perdu son âme, le Parti socialiste ? Je parle de l'Europe parce que je sais que l'Europe, ça fait partie de votre colonne vertébrale.
Exactement. Nous, au PRG, nous sommes pour une Europe fédérale, donc une Europe forte. Évidemment, on n'est pas naïf. On sait bien qu'il y a des choses qu'il faut changer en Europe, mais...
Et déroger
Mais on voit bien, justement...
Déroger aux règles, c'est la Pologne, c'est la Hongrie.
Oui, mais justement, quand vous parlez de l'Europe, je pourrais vous parler de la laïcité, je pourrais vous parler de la lutte contre les communautarismes. Tous ces marqueurs qui sont pour nous nos principes fondamentaux, nos convictions fondamentales, font partie des raisons pour lesquelles nous n'avons pas souhaité participer à cet accord. Parce que là, il y a vraiment une vision extrêmement différente de la construction européenne. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Si l'Europe n'est pas capable de parler d'une même voix forte face à Vladimir Poutine, on n'y arrivera pas. Regardez pendant la crise sanitaire, même si tout n'est pas parfait, nous avons besoin d'une Europe forte. Et puis en Tarn-et-Garonne, que serait notre agriculture sans certains dispositifs comme la PAC ? Donc c'est ça aussi la construction européenne, et c'est aussi pour ça qu'il faut se battre. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai pas renoncer à mes convictions.
On dit d'Emmanuel Macron qu'il va remplacer Angela Merkel dans sa stature capable de fédérer et de créer finalement l'Europe du 22e siècle. Est-ce que vous y pensez est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a cette capacité à bouger, faire bouger les choses ?
Pour l'instant, en tant que président de l'Union européenne, du Conseil, il agit, il essaie de se démener au maximum pour trouver des solutions. On peut avoir des points de divergence au niveau national, mais je pense qu'il est important que sur les questions internationales, les questions de défense, les questions européennes, on puisse être en France très constructif sur ces questions-là. En tout cas, la philosophie pro-européenne du président de la République, c'est sûrement un des points d'accord que je peux avoir avec lui.
Elisabeth Borne a été nommée première ministre, c'est une femme, mais c'est une femme, mais c'est un non-événement. Je veux dire, il faut qu'en France, on s'habitue à avoir des femmes à de hautes responsabilités. Vous-même avez été ministre. Carole Delga, chez nos confrères de RTL ce matin, a indiqué qu'Elisabeth Borne, ils allaient se parler cet après-midi. Est-ce que vous, elle vous a appelé Elisabeth Borne ? Est-ce que vous auriez pu participer à un gouvernement d'Elisabeth Borne ?
Ce qui est important, c'est effectivement, dans notre pays, de constater que nommer une femme première ministre, ministre est un événement. Et tout le monde en a parlé comme
30 ans.
Oui, mais 30 ans après Edith Cresson. Bon, c'est bien. C'est bien que ce soit une femme. Je connais Elisabeth Borne, puisque lorsque j'étais ministre, j'ai eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises. Elle était préfète de région. Elle a été ensuite au cabinet de Ségolène Royal. Pendant ce quinquennat, je l'ai croisée très souvent en tant que ministre. J'ai eu à l'interpeller régulièrement et à travailler avec elle sur un certain nombre de dossiers. C'est une femme de dossier. Mais hélas, elle appartient à un gouvernement et à une ligne politique qu'elle aura à mettre en œuvre qui n'est pas celle que je choisis, qui n'est pas la mienne. Parce que moi, justement, par rapport aux fractures et aux fractures sociales, aux fractures territoriales que nous avons évoquées au début de cet entretien, je considère que les réponses proposées aujourd'hui par le président élu ne sont pas à la hauteur des enjeux.
Non. Donc vous irez pas, même si elle vous appelle. on a compris ça.
Bah écoutez, moi j'ai toujours dit que pour appartenir à un gouvernement, il fallait être d'accord sur la ligne politique et pouvoir avoir les coudées franches pour agir. Je constate que ces deux points ne sont pas réunis.
Dans une tribune au Monde, Sylvain Pinel, le médecin anesthésiste, une tribune que vous avez peut-être lue, Philippe Bizouarn, il dénonce une gestion des hôpitaux publics centrée sur la seule rentabilité financière, cause première de leur mauvaise organisation et de tension en matière de personnel. Elle fait écho, cette tribune, à votre intervention, celle que vous aviez faite à l'Assemblée nationale concernant la fermeture des urgences à Moissac. Elle vous inspire quoi, cette tribune, ce cri d'alarme, en fait, du personnel hospitalier?
Ça fait bien longtemps que nous dénonçons justement cette vision très comptable de la santé. Vous parlez de l'hôpital public, mais on peut l'étendre à la santé dans son intégralité. Et je pense que la crise Covid a été un catalyseur, finalement un révélateur pour l'opinion publique de ce qui se passait réellement dans notre système de santé. Et moi, je crois qu'il faut mettre des moyens extrêmement importants sur l'hôpital public, sur la santé, parce que c'est vraiment le sujet numéro un qui est abordé par nos concitoyens. C'est le premier sujet de préoccupation.
Pardon, Sylvain Pinel, est-ce que le nouvel hôpital qui est lancé maintenant à Montauban, qui sera Montauban dans quelques années, est-ce qu'il va régler toute le problème en Tarn-et-Garonne?
Mais c'est pas uniquement construire des hôpitaux, sujet. Le sujet, c'est un investissement extrêmement important. Effectivement, oui. Construire un hôpital, c'est un budget conséquent. Mais ce qu'il faut aussi, et surtout, c'est des professionnels de santé. Il faut des médecins, il faut des chirurgiens, il faut des infirmières, il faut des aides-soignantes, il faut une pharmacie, bref, il faut tout le personnel de santé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'en termes de démographie médicale, au sens large, et pas uniquement les médecins, on est vraiment en pénurie.
Mais comment faire? Parce que nous interpellons tous les décideurs politiques sur cette question. Parce qu'elle nous semble fondamentale pour les personnes qui nous écoutent, le problème de la santé. Comment faire pour qu'il y ait plus de médecins en Tarn-et-Garonne?
D'abord, je crois que pour répondre très franchement et très clairement à cette question, on ne peut pas dire c'est une solution. Moi, je pense qu'il faut effectivement un panel d'outils à mobiliser et un travail en coordination les uns avec les autres. Il faut un hôpital fort, très complémentaire.
Il va irriguer.
Donc Montauban et Moissac, avec des professionnels de santé formés et avec des conditions de travail digne de ce nom pour ces hôpitaux. Il faut aussi ensuite rendre la médecine générale plus attractive. Il faut aussi, quand on dit qu'on a déverrouillé le numerus clausus, c'est vrai, mais ce que l'on constate, c'est que dans les facs de médecine, on ne forme pas beaucoup plus aujourd'hui de médecins qu'il y a quelques années. Donc on a encore ce problème-là à régler. Vous le savez, les universités sont autonomes. Donc il faut contraindre les universités à former beaucoup plus. Il faut aussi que l'on réforme Parcoursup, parce qu'on a un taux d'abandon extrêmement important pour les élèves infirmières et pour les élèves aides-soignantes. Et ça, voilà, c'est un vrai sujet. Et puis, il y a des dispositifs très utiles. Quand j'étais au gouvernement, nous avions lancé les contrats d'engagement de services publics pour permettre, en échange d'une bourse, à des étudiants en médecine, sous condition d'installation ensuite, ces contrats d'engagement fonctionnaient bien. Je constate que la majorité de 2017 a supprimé les fonds qui permettaient de conclure ces contrats d'engagement. Je sais que le département de Tarn-et-Garonne se lance dans cette initiative à peu près similaire à ces dispositifs-là. C'est une bonne chose. Il y a à côté les politiques de la région qui sont utiles. Et moi, je crois que c'est vraiment cette coordination qui nous permettra d'avancer et de réussir. Bien sûr, il y a d'autres...
Au-delà des clivages.
Mais là, je constate qu'il n'y a pas de clivage entre le département et la région. Mais je pense qu'il faut aussi compléter ce que nous avons fait sur les maisons des internes, faire venir davantage d'étudiants en médecine pour leur montrer ce que c'est le Tarn-et-Garonne. Et puis, avec ces bourses que va mettre en place le département, ça permettra à certains jeunes Tarn-et-Garonnais de se lancer peut-être dans ces études de santé qui sont longues. Et on le sait, beaucoup s'auto-censurent, se disent « les études de médecine, c'est trop long, j'ai pas les moyens, mes parents n'ont pas les moyens, je peux pas me lancer dans cette aventure-là ». Si ils sont aidés par ces bourses, peut-être que certains se diront, bon, finalement, je vais y aller, parce que, nous le voyons, nous avons un taux de réussite scolaire qui est plus faible que dans d'autres départements. Donc, il faut aussi accompagner ces jeunes et se dire que, oui, ils peuvent très bien devenir médecins demain.
Michel Veil, dont nous avons parlé il y a quelques minutes, a déclaré, indiqué, il le dit, il le répète, qu'il ne fera que mandat et qu'il était là en mission. Est-ce que après son mandat, est-ce que vous verriez, vous, prendre la tête du conseil départemental pour mettre en place votre politique ?
Je constate que Michel Veil vient d'être élu il y a un an, que le mandat, cette fois-ci, est beaucoup plus long, vous le savez, puisqu'il engendra une autre élection présidentielle.
Non, on n'est pas encore...
Je crois que là, vraiment, c'est beaucoup, beaucoup trop tôt pour parler de cette question.
En février dernier, Mme Pinel, vous aviez questionné le gouvernement sur le pouvoir d'achat. Une des premières préoccupations des Français, les inquiétudes, les privations, les renoncements sont devenus le lot quotidien d'une partie de nos concitoyens, disiez-vous. En particulier, vous le maintenez. Aujourd'hui, beaucoup vous rejoignent pour dire que la situation devient très difficile, voire intenable, avec une récession qui pointe le bout de son nez, une récession forte. Que faut-il faire ? Est-ce que vous, en tant que député, vous pouvez changer la donne ?
Pour changer la donne, il faut une majorité. Il faut être en convergence avec pas mal de députés pour y arriver. Ouais. Ça, c'est déjà un premier point. Parce que aujourd'hui, au moment où nous parlons, personne ne peut nous dire quel sera le visage de l'Assemblée.
Sauf que c'est maintenant qu'il faut prendre les décisions.
Oui, mais quel sera le visage de l'Assemblée de juin 2022 ?
On le sait pas.
Moi, ce que je pense, c'est que sur la question du pouvoir d'achat, il y a effectivement des mesures urgentes à prendre. Nous le voyons, les coûts du carburant ne cessent d'augmenter. La situation en Ukraine fait qu'il y a des pénuries de matériaux, les coûts de construction augmentent, les coûts pour les cantines scolaires, par exemple, augmentent aussi. Pour les collectivités, ça pose un sujet. Et donc là, il est très, très important que, dès les premières semaines de la nouvelle Assemblée, on puisse avoir un texte pour débattre de ces questions et de ces mesures pour le pouvoir d'achat.
Qu'il faudrait faire pour vous ? Est-ce qu'il faudrait donner un chèque aux Français pour qu'ils puissent finir la fin de mois ? Parce qu'on parle de ça, en fait. La fin de mois.
Pour certains, la fin du mois commence très tôt.
Et
moi, je crois qu'il y a effectivement le sujet alimentaire qui est extrêmement préoccupant. Donc, le chèque alimentaire, vous savez, nous l'avons proposé à maintes reprises sous le quinquennat qui vient de s'écouler. Et finalement, on nous avait dit non. Et je constate que maintenant, finalement, l'idée n'est pas si mauvaise. Il y a la question des carburants. Et là, il faut sûrement réfléchir à la TICPE parce que c'est un des leviers à la main du gouvernement pour faire baisser la fiscalité du carburant. Il y a un enjeu sur les mobilités, il y a un enjeu sur le mix énergétique et sur l'électricité. Il y a un enjeu sur la rénovation des bâtiments parce qu'on ne peut pas se réjouir d'avoir mis beaucoup d'argent dans MaPrimeRénov', mais d'avoir, comme le dit la Cour des comptes, aussi peu de résultats pour faire sortir les logements des passoires thermiques. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi sur lequel il faut se travailler et se mobiliser.
Sylvia Pinel, quel bilan faites-vous de votre mandat ?
Difficile de tirer en quelques mots. Moi, j'ai été extrêmement assidue, présente à l'Assemblée pour défendre tous les sujets qui me semblent importants pour la France et le Tarn-et-Garonne. J'ai été très mobilisée sur les questions économiques, évidemment, puisque je siège dans cette commission-là. J'ai été très mobilisée sur mes anciens périmètres ministériels, que ce soit artisanat, commerce, tourisme, bien sûr, mais aussi la politique du logement, la politique de l'aménagement. d'aménagement du territoire. Et puis, parce que j'avais aussi cette expérience, je siégeais dans un petit groupe, hein, on était peu nombreux, et donc j'ai souvent été appelée à remplacer au pied levé mes collègues sur des sujets qui n'étaient pas forcément dans mes commissions. Donc j'ai été extrêmement engagée sur beaucoup de textes, et je pense que j'ai effectivement réalisé ma mission essentielle, c'est-à-dire être un vrai législateur.
Est-ce que dans votre esprit, il n'y a jamais eu d'hésitation à repartir dans la bataille ?
Quand je vois aujourd'hui le contexte, à la fois sanitaire, économique, géopolitique, quand je vois le pays fracturé, divisé, qui a vraiment besoin d'être apaisé, je me dis qu'il faut des élus qui aient l'expérience, qui connaissent bien les rouages de l'Assemblée pour être efficaces tout de suite. Je me dis qu'il faut aussi porter une voix qui n'est pas la voix forcément de ce que certains voudraient, un Parlement silencieux, un Parlement Godillot, qui enregistre toutes les décisions de l'exécutif. Moi, je continue à penser qu'il faut un Parlement fort, avec des voix indépendantes, des voix qui ont une expérience forte. Et mon expérience de première vice-présidente de région, mon expérience ministérielle, ce sont indéniablement des atouts que je souhaite mettre à profit pour ce futur quinquennat.
Sylvia Pignal, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de CFM Radio. On se donne rendez-vous dans l'entre-deux-tours, pourquoi pas.
Pourquoi pas.
Merci, au revoir.